Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Morren.
Salut tout le monde.
D'ATH.
Bonjour, bonjour.
Et de celui qui nous a manqué la semaine dernière. Pixel, ça va, ton micro remarche ?
Il remarche.
Alors, est-ce que tu as le Player's Spirit, Pixel ?
Ouais, j'ai le Player Spirit et j'en profite pour savoir si quelqu'un aurait pas 10 euros pour que je puisse m'acheter un slot de perso sur Metal Gear Survive. Merci beaucoup, au revoir.
Voilà, Pixel a brisé le tabou, hein, le tabou qui est de ne jamais parler de ce jeu sur ce podcast.
Oui, parce que tu as censuré ma news, espèce de salaud.
De quel jeu on parle ? J'en ai jamais entendu parler.
Non, mais si tu veux, il y a des trucs comme ça que je censure arbitrairement.
Il s'appelle pas Tyran pour rien.
Ah bah ouais, ça c'est sûr.
Il y a des trucs dont je refuse de parler sur ce podcast. Voilà, donc nous ne parlerons pas de cette chose. Allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de deux projets Kickstarter. On enchaînera ensuite sur Ghost of a Tell. Nous évoquerons également Iron Maiden. On déchargera des caisses sur Chrono Trigger, qui a fait une sortie un peu honteuse sur PC. On évoquera également Steam, Donald Trump, et enfin, on terminera par Prestalis. Vous avez demandé dans les commentaires de la dernière émission qu'on vous tienne au courant. On vous tient au courant. Et de toute façon, vous l'auriez pas demandé, on vous l'aurait fait quand même.
Hein. Donc, voilà. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
Voilà, c'est ça. On fait ce qu'on veut sur ce podcast. Donc, avant de commencer, je tenais à faire un mea culpa, un erratum par rapport à notre podcast de la semaine dernière. Il se trouve que dans le dernier numéro, j'ai dit du bien de Square Enix. Et je tenais à corriger cette grave erreur, n'est-ce pas? Je pensais que Final Fantasy XV n'aurait pas de DRM. Pourquoi? Parce que dans les conditions d'utilisation du jeu, d'habitude, quand il y a un DRM comme des nouveaux, c'est indiqué. Et il se trouve que là, ce n'était pas indiqué. Ça, plus le fait que sur la page Steam, des nouveaux n'étaient pas indiqués, alors que d'habitude, c'est indiqué. Et que, en plus, je sais pas, comme la démo, il n'y a pas de DRM dessus, on aurait pu partir du principe que le jeu complet, il n'y aurait pas de DRM dessus. Surtout qu'il y a des rumeurs qui circulent comme quoi le fait qu'ils aient pas mis de DRM sur la démo va permettre de casser le jeu final. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je tenais à retirer tout le bien que j'ai pu dire de Square Enix, vous êtes des putains de raclures. Voilà, il y aura bien des nouveaux sur Final Fantasy XV. Donc par rapport à la news de la semaine dernière, tu sais, où j'essayais de faire le gain un peu positif, qui disait du bien de Final Fantasy XV, bah là désolé, il y a rien à sauver, si ce n'est le fabuleux DLC que Square Enix va proposer sur Origins avec des costumes de lama.
Oui, pourquoi pas. On a perdu le tyran.
Non mais sérieusement, t'as quelque chose de bien à dire sur Final Fantasy XV encore? Enfin, après le partenariat avec Half-Life, maintenant c'est les Sims 4, Tabata qui demande qu'est-ce que vous voulez qu'on change pour la fin du jeu, enfin, ce jeu est une catastrophe quoi, de toute façon, quoi qu'il en soit, donc...
Mais non, c'est pas une catastrophe, il y a un mode online.
Ah, trop cool. Trop cool. Non, franchement, ça rattrape tout, quoi. Donc, ça explique pourquoi le jeu est... C'est un jeu de merde, quoi. En fait, c'est un jeu qui est pas fini, c'est un jeu Game of the Service. Et du coup, en fait, Final Fantasy XV, on en a encore pendant 15 ans, c'est ça?
Ouais, enfin, faut voir la tronche du service, hein, putain.
Non, mais... Ah, t'es là, je te dis ça, mais je suis sûr que les petits costumes de lama violets fluo, là...
Ah bah moi, j'ai préco, hein,
ça t'envoie du rêve, là.
Non, mais enfin franchement, quand même, le truc le plus drôle là-dessus, c'est que Tabata interroge les fans au sujet de la fin, quoi. Parce qu'au cas où, peut-être qu'ils nous feront le Mass Effect 3, tu vois.
Bon, allez, on va passer à la suite. Donc, on va commencer, Pixel, dans le dur, avec deux projets Kickstarter.
Deux projets Kickstarter intéressants, on va commencer avec The Beast Inside, qui est un jeu d'horreur, aventure, survie, au graphisme photoréaliste à la première personne. Projet donc Kickstarter où les développeurs demandent 38 080 $, si je lis bien, voilà. Alors pourquoi pas 40...
C'est euros.
C'est euros, pardon.
C'est pour ça que c'est pas un chiffre.
Voilà. C'est pour ça que c'est pas un chiffre rond. Et excusez-moi, donc c'est 38 080 €. À l'heure où on parle, ils en sont déjà à 24 587 €. Il reste 29 jours, donc je pense qu'il y a de très 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 fortes chances qu'ils vont arriver jusqu'au bout de leur projet.
Ils sont bien partis.
Et ils sont bien partis. Et il existe une vidéo, bien entendu, où on peut regarder sur la page Kickstarter. Et toi, tu l'as vu, Tyran, et j'aimerais bien savoir, en fait, ce que tu en penses, en fait, de ce projet-là.
Alors, pour être plus précis, la vidéo de la page Kickstarter, elle montre pas grand-chose. Par contre, il propose une démo à tous ceux qui ont financé le projet. Et donc, il y a des vidéos assez longues d'une heure qui circulent, où, bon, on peut en voir un peu plus du jeu. Personnellement, je suis mitigé. C'est-à-dire que il y a du taf, c'est clair. Hein, je veux dire, le rendu est super chouette. Franchement, il y a de l'ambiance. Par contre, ça ressemble quand même beaucoup à un simulateur de marche avec des éléments de point and click, on va dire. Le début de la séquence de gameplay est extrêmement chiant, je trouve. C'est-à-dire que, en gros, le gars, il erre dans une maison, il regarde des objets. Enfin bon, c'est pas très très intéressant. Et je sais pas, la partie horreur, moi personnellement, je suis pas tout à fait convaincu. Enfin, le jeu, personnellement, me fait pas très peur déjà. Et enfin, moi, ça me branche pas plus que ça pour le moment.
Ouais, moi, je vais confirmer ce que tu dis. Si même moi, ça m'a pas fait peur en fait en regardant, c'est qu'il y a un souci.
En fait, Mordred, c'est un peu notre thermomètre de la peur, si tu veux. C'est, s'il a pas peur, c'est qu'il y a vraiment une mini-couille dans le potage, quoi. Déjà qu'il refuse à jouer à des jeux coop d'horreur. Oui. Alors, si ça, ça lui fait pas peur, c'est qu'il y a un problème. Hein.
Mais il y a quand même un petit truc. Moi, je penserais pas que ça soit un jeu d'horreur, si tu veux, un peu à la Outlast ou bien Amnesia. Mais plus quelque chose qui tendrait à Alan Wake. Donc, Alan Wake, c'est pas un jeu qui fait extrêmement peur en soi, quoi. Mais ça a quand même cette thématique d'horreur. Et peut-être que là, en fait, on se retrouve en face d'un Alan Wake-like, en vue à la première personne, quoi. En fait, un mix entre Alan Wake et RE7, en fait. Ouais. Après, là, c'est que le début du jeu. En général, les trucs qui font flipper, ça arrive pas tout de suite. Ce qui est important dans les jeux comme ça, surtout où t'as une vue à la première personne, c'est qu'est-ce que ça raconte au final. Et donc ça, ça sera intéressant et espérons que ça soit mieux fini que Alan Wake parce que je n'avais rien compris en fait à ce qui se passait quoi.
Ouais, mais Alan Wake par contre, je trouve avait une ambiance qui se dégageait du truc quoi. Enfin, c'est la scène par exemple où ils font un espèce de concert. Enfin, je la trouve géniale quoi. Même si le jeu au global c'est pas un jeu qui m'a plus marqué que ça, il y a des petits moments comme ça où le jeu a des fulgurances et c'est des moments qui te marquent en fait. Alors que là, pour le moment, je trouve ça un peu plat, quoi, on va dire.
Ouais, bah après, il faudra voir, mais Alan Wake, c'est vrai qu'il y avait des bonnes idées, comme bah comme tu as dit, la scène du concert, je pense que c'est la scène culte du jeu. T'avais aussi des trucs qui étaient intéressants avec la télévision qui te montrait une émission, la quatrième zone, je crois, un truc comme ça.
Quatrième dimension,
ouais. Il y avait des trucs quand même assez sympas, mais bon, dans Alan Wake, le truc qui était un peu chiant, c'était que plus tu avançais dans le jeu, plus ce que tu faisais, c'était spoilé par le jeu, quoi. Il t'avait des petits bouts du livre que Alan avait écrit, et t'expliquait carrément ce qui allait se passer.
Alors, en fait, là, il y a un truc qui va te faire peur, qui va arriver, donc... Ouais, d'accord, c'était pas la meilleure idée. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, moi, ce projet-là, ma plus grosse critique, c'est le gameplay, pour le moment. C'est clair que ça sera pas du côté Resident Evil de la chose, quoi. Ça sera plus vraiment un jeu à ambiance, quoi. Pixel, du coup, on va passer à l'autre projet de la semaine.
Alors, l'autre projet, c'est Alder's Blood, qui demande 48 867 euros. Cette fois-ci, je vais pas me tromper. Ils en sont à 15 623, il reste 13 jours.
C'est mal barré.
C'est plutôt mal barré. Et donc, c'est un tactical, au tour par tour, qui est déjà très fortement inspiré au niveau direction artistique de Bloodborne. Là, il faut... Bah, fortement inspiré, je dirais plutôt que c'est du copier-coller, parce que les personnages sont habillés comme les chasseurs de Bloodborne. C'est vraiment
après,
le...
Après, les chasseurs de Bloodborne, c'est du victorien, hein, de toute façon. Voilà. C'est pas comme si Bloodborne avait inventé non plus...
Exactement. Mais ils le disent, hein, sur la page Kickstarter, ils assument s'être inspiré fortement de Bloodborne pour la direction artistique. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans le jeu, c'est que, en fait, c'est des déplacements en hexagone, ce qui se fait de plus en plus rare, à mon avis, hein, dans les jeux de, dans les tacticals et même dans les RPG. Il n'y a pas de RNG dans ce jeu. C'est pas comme un certain XCOM, n'est-ce pas? Quand t'as 95% de chance de taper l'ennemi, tu le rates trois fois de suite. Voilà, ça devrait rappeler quelque chose à quelqu'un ici présent.
Voilà. Voilà. Mais d'ailleurs, ça c'est un des problèmes que j'ai avec ce Kickstarter, c'est que tu sais, il fait du name dropping, comme ça il te dit Bloodborne, Darkest Dungeon,
XCOM.
Et par exemple, moi je suis désolé, mais XCOM, je vois pas le rapport. C'est quand même une formule très particulière de tactical RPG, XCOM. C'est-à-dire que c'est un jeu où tu vas créer tes personnages, où tu t'attaches à eux parce qu'ils peuvent crever de manière définitive à tout moment. Donc t'as tout le côté full RNG qui est typique de XCOM Enemy Unknown, en tout cas. Et de l'autre, tu as le côté management de base, en fait. Et c'est pas du tout présent dans ce jeu-là. Donc pourquoi faire du name-dropping de XCOM là-dessus, je ne comprends pas. Par contre, pour parler plus précisément du projet, il y a quand même des choses intéressantes.
Ouais.
Ce que je trouve cool, moi, c'est certaines mécaniques de gameplay, notamment la gestion des odeurs. C'est-à-dire que comme tu vas chasser bon des monstres, des bêtes, bon, en gros, ça a l'air presque post-apo. Alors, univers, j'ai l'impression, tu dois protéger l'humanité, des créatures qui rôdent dans l'ombre, etc. Sachant qu'il y a plus de deux jours hein, dans ce jeu. C'est-à-dire que c'est tout le temps la nuit, et en fait, les gens ils vivent en fonction du cycle de la lune. Donc, quand tu vas chasser des bêtes, il y aura marqué le sens du vent, si tu veux. Et en fonction de où ira le vent, si le vent va en direction d'une des bêtes et que toi t'es dans sa trajectoire, on va dire, et ben à ce moment-là, les bêtes elles te sentiront, elles viendront te voir. Et ça, c'est très intéressant parce que d'un côté, si tu veux surprendre l'adversaire, il va falloir gérer ce paramètre, et de l'autre, tu peux tendre des pièges aussi. C'est-à-dire genre tu fais exprès de mettre un gars à un endroit, et tout autour tu places tes hommes, t'attends que les bêtes elles arrivent, tac, tu les prends en tenaille et ce genre de choses. Enfin, il y a tout un tas de tactiques qui peuvent se mettre en place grâce à ça, quoi. Et autre aspect que je trouve super cool, c'est le côté cycle de la lune, c'est-à-dire que en fonction des phases de la lune, visiblement certaines bestioles seront affaiblies ou seront plus fortes, ou auront différents pouvoirs, etc. Voire peut-être même que certaines bestioles ne pourront être chassées qu'à certaines phases de la lune. Donc ça, franchement, je trouve ça très intéressant.
Après, c'est vrai que le jeu, clairement, la direction artistique a fait très penser à Bloodborne, et moi, quand j'ai entendu Bloodborne, j'étais un petit peu titillé par le sujet, et quand j'ai vu que c'était quand même un jeu de stratégie comme ça, au tour par tour, j'étais un petit peu déçu, en fait. De ce côté-là, j'aurais préféré un jeu à la, si tu veux, un peu à la Monster Hunter World, ou vraiment un jeu de chasse aux monstres, et, enfin, tu vois, dans un jeu comme ça, au tour par tour, bah, c'est pas du tout le même rythme qu'un jeu d'action, donc je trouve ça un petit peu...
Ça n'a rien à voir, c'est pas...
Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais après, c'est juste que moi, je suis pas trop tactical, mais je comprends tout à fait les gens qui aiment bien ce genre de jeu, quoi.
Voilà, donc dans tous les cas, ils sont mal barrés, hein. C'est très 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 mal barré même, parce qu'en général, quand t'as 13 jours comme ça et que t'as même pas la moitié de ton financement, à moins qu'il y ait un gros gros boost, voilà. Par contre, ah oui, il y a un sujet que je voulais aborder aussi qui m'a dérangé dans leur communication de campagne. Je précise que, comme précédemment, c'est un studio polonais. C'est pour ça que j'ai pas critiqué les sommes qu'ils demandaient, parce que je sais très bien que le coût de la vie en Pologne n'est pas le même qu'ici. Donc voilà, le budget qu'ils demandent finalement est pas déconnant pour un studio polonais, quoi, on va dire.
Ouais.
Ce qui m'a dérangé, c'est que en fin de vidéo, ils commencent à balancer des promesses du genre ah oui, quand on sortira le jeu, on sortira plein de pages gratuites. Et ça, c'est le genre de promesse, à mon sens, qu'il ne faut jamais faire, parce que tu sais pas ce qui se passera quand tu sortiras ton jeu. Si le jeu il se vend pas, tu vas faire du support comme ça gratuitement? Bien sûr que non. Vous voyez, c'est pas raisonnable, quoi, comme promesse. J'ai l'impression, en fait, si vous voulez, que les petits studios comme ça se sentent obligés, comme c'est devenu la mode, avec, ouais, tu sais, les accès anticipés, etc., où les jeux sont tout le temps mis à jour, et des fois, on sait qu'il y a même des jeux qui sortent d'accès anticipé, où les gens reprochent aux développeurs de plus mettre à jour les jeux, alors que, putain, ça y est, il est fini, ouais, quoi. Laissez-les passer à autre chose. C'est, ouais, pas Electronic Arts ou machin. Le jeu, il s'est pas forcément vendu hyper bien, tu vois. Enfin, ils ont peut-être autre chose à faire que de bosser sur un jeu qui est déjà sorti et qui, au-delà de sa date de release, va pas beaucoup rapporter, quoi, en fait.
Ouais, c'est en train de devenir la norme, quoi.
Ouais, voilà, ça me dérange quand je vois ça, parce que c'est ce que tu dis, Mandrin. J'ai l'impression que ça devient la norme de promettre aux gens des promesses qui, pour moi, sont... totalement irréaliste. Tu peux pas promettre aux gens que tu vas continuer d'entretenir ton jeu si le jeu il se vend pas. Et ça donne des mauvaises habitudes aux gens en plus. Parce que après, quand t'as un développeur qui sort un jeu qui est propre et qui l'a fini, on va lui reprocher de pas continuer à sortir du contenu gratuitement. Je sais bien que le jeu à service se propage un peu partout, y compris dans la sphère indé, mais là, faut arrêter de déconner, quoi. Enfin, c'est pas raisonnable, comme
attitude, quoi. Oui, mais en même temps, comme tu l'as dit, ça devient la norme. C'est-à-dire que, bah, s'ils font pas de promesses ni rien, déjà qu'ils ont du mal à trouver un financement par rapport au jeu, si tu veux, ils sont bien obligés de vendre un peu de rêve pour que les gens mettent les ronds dedans, quoi.
Regarde, le résultat, ils mettent pas ronds dedans, donc Et je suis désolé, hein, si le seul moyen de vendre ton jeu c'est ça, excuse-moi, t'es mal barré, hein. Enfin, c'est que t'as pas confiance en ton produit, ou je sais pas.
Je n'ai pas dit que c'était le seul moyen, j'ai dit que c'était l'un des moyens qui était devenu la norme aujourd'hui. Il y a plein de jeux comme ça, des gros AAA comme par exemple les Destiny ou bien les Star Wars Battlefront qui promettent d'avoir un contenu voilà qui est mis à jour régulièrement. Du coup, ça s'est répercuté sur les indépendants parce qu'ils ont vu que quand même on promettait un suivi, si tu veux, qualitatif sur le jeu. Et du coup, pour remercier les gens qui ont financé, proposer un petit plus une fois que le jeu est sorti. Donc moi, je trouve ça normal qu'ils jouent à ce jeu-là. Après, c'est sûr que une fois que le jeu est sorti, il faudra tenir les promesses quoi qu'il arrive.
Ouais,
quoi.
Ouais non, mais c'est même pas ça. Moi, ce que je dis, c'est que c'est malsain. Parce que oui, Activision, etc., ils peuvent promettre ça. Mais un studio indé, il peut pas faire ce genre de promesse. Je suis désolé, c'est totalement déraisonnable comme promesse. Quand t'as pas de pognon, d'où tu vas faire des mises à jour gratuites à TH?
Enfin, ils ont pas dit clairement à quoi correspondaient les mises à jour qu'ils allaient faire. Ça se trouve, ça sera juste des petites choses en plus, tu vois. Enfin, ils ont pas clairement dit qu'on va proposer une extension.
Non, mais à TH, quand tu commences à faire ce genre de promesse, tu sais très bien que les gens derrière, ils vont construire des attentes. Et derrière, ça va te revenir dans la gueule. J'ai déjà vu ça sur plein de jeux en accès anticipé. Genre, je vais reprendre un exemple qui m'a marqué, moi c'est Battle Brothers. Battle Brothers, il y avait plein de features, tu vois, les mecs ont dit, ils ont même pas promis, hein. Ils ont dit, on sait pas, on verra. Et rien qu'en ayant dit ça, les gens leur sont tombés sur la gueule à la release parce qu'ils ont dit, on passe à autre chose. La note du jeu, elle est passée de plus de 90% à moins de 90%, tu vois, à cause de cette histoire.
Ah mais là, après, je suis désolé, mais tu peux pas empêcher les gens d'être cons, quoi. Enfin, ils ont rien promis,
oui,
clairement.
Oui, mais justement, comme les gens sont cons, il faut pas leur faire des promesses. C'est ce que je dis.
Ah oui, mais bah après, eux, ils ont promis quelque chose, donc après, c'est à eux d'assumer. Enfin, mais moi, je dis qu'il faut juger sur pièce. Enfin, ils promettent quelque chose. C'est une fois que le jeu est sorti, on verra si les développeurs assument.
Oui,
ce qu'ils ont
dit. Tu promets quelque chose, et après, les gens, ils commencent à se construire tout un film dans la tête, etc. Ils ont des attentes, et moi, je pense que c'est déraisonnable comme promesse. Voilà. Allez, on passe à la suite. On va parler maintenant de Ghosts of a Tell, juste pour dire donc que le jeu sortira le 13 mars. Pour rappel, Ghosts of a Tell, c'est un jeu qui avait été financé par Kickstarter, encore une fois. C'est un jeu où vous allez jouer une petite souris, c'est un projet français, et cette souris, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire de l'infiltration à la Hitman, c'est-à-dire qu'elle pourra prendre des costumes, tromper ses adversaires, etc. Bon, sauf qu'elle, elle va pas tuer les gens, hein. Elle, son but, c'est de traverser les niveaux en toute sécurité, avec un level design super chouette et tout ça. Enfin, j'avais pu tester la démo qu'il avait mis en place sur Steam, et franchement, c'était vraiment cool. Donc ça sort le 13 mars, il y a des screenshots qui ont été diffusés qui montrent un peu le progrès qui a été fait sur le jeu d'un point de vue esthétique, quoi, dirons-nous. Et je voulais juste dire une chose, il n'y a pas à dire, le travail sur la lumière, des fois, ça te change complètement une scène, quoi.
Ouais.
Bon, ouais, il n'y a pas que ça, hein. Il a aussi travaillé sur la végétation, etc. Mais le taf sur la lumière, quand même, tu te dis, ouais, ça fait des différences, quoi.
Non, mais quand même, même les textures et tout, enfin, je trouve que le jeu est quand même... assez joli, quoi, pour un studio de cette ampleur-là.
C'est un mec tout seul, hein, je le rappelle.
Ah ouais, enfin, c'est d'autant plus impressionnant que c'est quelqu'un qui est tout seul là-dessus, quoi. Parce qu'il y a quand même pas mal de détails dans les niveaux, tu vois. C'est pas genre, t'es dans un couloir qui est vide, ça regorge quand même de vie. Il y a pas mal de détails sur la végétation, sur des éléments de décor. Tu sens qu'il y a eu de la vie ici. T'es pas un explorateur qui arrive d'une contrée lointaine, qui découvre une terre ancienne où, enfin, il y a tout qui a disparu. Tu vois vraiment que c'est quelque chose qui a l'air crédible, si tu veux.
C'est ça.
Je vais juste préciser, pour les gens qui seraient intéressés par le jeu à l'heure actuelle, il est en Early Access, et son prix va augmenter, en fait, une fois qu'il sera sorti. Mmh. Il va passer à $25, donc 25 euros, a priori,
sachant que là, il est à 19,
selon
je crois,
les projections. Donc Ouais, il est à 19 euros à l'heure actuelle. Bon, je vous dis pas spécialement de le prendre moins cher, mais voilà, c'est une info comme une autre.
Bon, dans tous les cas... c'est un accès anticipé qui a reçu un très bon suivi. En tout cas, les retours sur Steam sont excellents pour un jeu en accès anticipé. Je crois qu'il a 95% de reviews positives, un truc comme ça.
Exactement.
Ce qui est rare pour un jeu en accès anticipé. Et puis même, je veux dire, un jeu d'infiltration super joli, qui est original dans son univers, c'est tellement rare que je prends. Voilà, je prends tout de suite. Et encore une fois, bravo aux développeurs. Je rappelle que c'est un ancien de... je crois qu'il était chez DreamWorks ou un truc comme ça.
Ah oui, ça explique certaines choses, du coup.
Voilà. Non, mais c'est aussi pour ça que le jeu est aussi joli. Il y a du level derrière, quoi. Bon. On passe à la suite, messieurs. On va partir dans du hardcore niveau graphisme, hein. C'est pas du tout un jeu avec des graphismes modernes, hein. Ça s'appelle Iron Maiden Pixel, et qu'est-ce que c'est comme jeu?
Alors, Iron Maiden, à ne pas confondre avec Iron Maiden, hein, The Number of the Beast,
d'ailleurs,
Fear
je
of
proteste,
the Dark,
ils auraient dû faire un trailer avec du Iron Maiden.
Voilà, pour l'humour, pour le LOL.
Ça doit coûter un petit peu d'argent, ouais.
voilà, ils l'ont pas fait, mais c'est en fait un jeu de tir à la première personne, comme ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu, mais old school. Parce que il utilise tout simplement le moteur de Duke Nukem 3D, le vrai, l'ancien, là, celui qui est sorti il y a très 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 longtemps.
Oui, qui est toujours mis à jour, hein, mais
qui est toujours mis
qui
à jour, mais qui
est
sorti
il y a très très longtemps, oui.
Ouais. En fait, c'est Duke Nukem 3D à l'ancienne, mais avec des graphismes un peu refaits en HD et très très fluide et
enfin en HD.
enfin en HD. Bien. Oui, oui.
Avec des guillemets autour, hein, c'est
avec des guillemets
HD,
autour, voilà.
Rétro quoi.
ça a été développé par Void Point. C'est édité par 3D Realms. Tiens donc, comme par hasard. C'est en early access pour l'instant sur Steam. Ils en demandent $20. Et le jeu en tant que tel, pour l'instant en version early access, il vous propose une campagne qui dure, selon les développeurs, plusieurs heures. Voilà.
Alors au départ, je vous avoue que j'étais extrêmement dubitatif. Parce que ça a tous les traits, si tu veux, du projet ultra nostalgique, machin. Mais, j'ai une objection qui m'a été opposée et je la trouve assez valide. C'est-à-dire que Iron Maiden, c'est un jeu, un FPS à l'ancienne. Et quand je dis FPS à l'ancienne, c'est pas que au niveau des graphismes, c'est aussi au niveau du level design. Je mettrai une image en lien de ce podcast, vous verrez ce que je veux dire. Il est hyper labyrinthique. C'est vraiment le level design des FPS à l'ancienne, tu sais, avec plein de secrets de partout, plein de manières d'aborder le niveau, etc. Et c'est vrai que ce genre de FPS, aujourd'hui, il y en a pas 36 000. Et du coup, je trouve que ce projet-là, fondamentalement, même si le côté, ah là là, regardez, on a mis des vieux graphismes tout moches pour se la jouer rétro, etc. Ça m'agace un peu, mais je remarque quand même que dans le paysage vidéoludique aujourd'hui, il répond à une demande qui n'est pas forcément satisfaite. Voilà.
Bah, coûte cher la demande quand même, parce que $20 pour ça, quoi. Enfin, pour $20, je trouve qu'il y a des jeux indépendants qui sont quand même un peu plus jolis, plus travaillés que ça. Là, c'est, on reprend un moteur qui est usé jusqu'à la moelle, on le remet juste aujourd'hui, si tu veux, en 60 FPS, et puis voilà, quoi, enfin.
Là, t'achètes une expérience old school, en
fait,
si tu veux.
T'achètes une expérience old school, tu re-télécharges le premier Duke Nukem, et puis tu y rejoues, quoi, enfin.
Ouais, mais visiblement, c'est quand même autrement plus labyrinthique.
Je te ferai remarquer. Par contre, il y a un truc que je suis pas d'accord avec toi. T'as l'air de dire que c'est pas du taf de faire ça, en fait.
Ah si, c'est du taf. Non, j'ai pas
et
dit
que
c'est
désolé,
pas du taf.
Mais reproduire ces graphismes-là, c'est du taf, si, hein. Parce que les outils, aujourd'hui, ils sont pas faits pour ça, hein. Pour arriver à ce rendu-là, ils doivent plus taffer qu'un mec qui va faire un FPS lambda avec une gueule lambda, en fait. Si tu vois ce que je veux dire.
Ah mais non mais moi enfin je trouve ça pas ça correct quoi de revendre ça surtout à ce prix-là avec un moteur qui est très vieux quoi.
Bah je sais pas par exemple est-ce que ça te choque quand il a quel prix déjà
$20
non mais Shovel Knight par exemple
Shovel Knight c'est pas 14€
voilà je vois enfin c'est 5€ de plus que Shovel Knight enfin c'est quand même regarde le level design qu'il propose quoi tu trouves plus ça dans les FPS aujourd'hui hein. T'as un vrai taf en termes de level design, t'as un vrai taf, moi je suis désolé, en termes de direction artistique, parce que même si moi ça me plaît pas, le fait est qu'il y a un taf derrière, et je trouve pas ça scandaleux. Moi ça m'attire pas, j'aurais préféré avoir un jeu avec une esthétique d'aujourd'hui, quoi, si tu veux, mais je peux comprendre que les mecs jugent que ça vaut ce prix-là. Alors après, par contre, fondamentalement, c'est vrai que le jeu il est pas fini, et que quand tu commences à payer 20 balles pour un jeu pas fini, ça commence à faire cher, quoi.
Non, mais après, enfin, voilà, c'est ça que je voulais pointer du doigt, c'est que le truc, il est en accès anticipé, il est vendu à 20 balles. Ils te font, genre, on est sympa, on vous le met à 18 jusqu'au 7 mars. Enfin, déjà, paye ta promotion de $2, quoi. Et c'est ça que je reproche, quoi, c'est que 20€ et que le jeu n'est pas encore terminé, c'est ça que je trouve très cher, mais...
Ah, ça, on est d'accord, mais je croyais que ce que tu reprochais, moi, c'était le fait qu'il y ait des vieux graphismes, en fait.
Bah non, enfin, les vieux graphismes, si tu veux, c'est pas ce qui me dérange le plus.
Non, mais tu vois, je préfère te faire préciser, parce que moi, c'est ce que j'avais compris, donc peut-être que d'autres personnes ont compris ça en écoutant, si tu veux, donc c'est pour ça que je tenais à préciser.
D'accord, parce que oui, c'est vrai que j'aurais dû insister peut-être sur le fait que c'est le jeu, il est sur Steam Early Access, J'aurais trouvé ça moins déconnant de faire un truc, tu vois, par exemple, le jeu sortira à 20$ dans sa version définitive. Là, pour le moment, il est en accès anticipé, vous le payez 10$. Là, au moins, ça te fait une vraie promotion, ça te fait au moins un peu de visibilité.
Ah, on est d'accord.
Et voilà. Mais moi, ce que je reproche, c'est vraiment que, il te force un peu la main pour 2$, quoi. Enfin, c'est, c'est un peu de se foutre de la gueule du jeu, quoi. C'est même pas un kebab.
Petit erratum, Shovel Knight, donc, dans sa version Treasure Trove, donc, avec tous les DLC, c'est 23€.
Je vous propose qu'on passe à la suite, messieurs.
Oui.
Alors là, par contre, on va parler du vrai putain de gros scandale de la semaine. Ouais. Putain. Chrono Trigger PC, Marwan, qu'est-ce qui se passe?
Mais oui, alors en fait, on a eu la surprise la semaine dernière, c'était le 27 février, pour être tout à fait précis. Un certain nombre de personnes ont reçu en fait une alerte Steam, les prévenant en fait que Chrono Trigger était disponible sur Steam. Et donc, il y a pas mal de gens qui se sont mis à acheter le truc pour voir ce que ça donnait, notamment un certain Pouillot de chez Gamekult qui allait vérifier de quoi il en retournait et qui nous a prévenu de ce qui se passait, en fait. Et il se trouve que sur l'écran titre, en réalité, on voit une drôle de d'interface utilisateur avec trois boutons en haut à droite avec écrit juste le E de Square Enix, ensuite juste en dessous écrire un avis et juste en dessous encore élargir l'écran.
Élargir l'écran.
Voilà, tu tiques un petit peu. Ensuite, tu entres pour créer ta partie, on te demande le mode de combat que tu veux choisir. Enfin bref, donc t'as deux énormes rectangles avec écrit le mode actif, et ensuite en dessous un énorme rectangle avec écrit semi-actif. Et tout ça comme ça, en fait, à force de cliquer, même sans rentrer dans le jeu, en fait, on se rend compte que ben l'interface utilisateur est pas spécialement adaptée au PC et fait même peut-être penser à de l'ergonomie mobile.
Oui, parce que il faut que ton pouce, il puisse tapoter sur le
Exactement.
Gros bouton.
Exactement.
Voilà.
Pour accéder au menu, par exemple, t'as un bouton tout en haut à droite, une espèce de petit rectangle avec écrit menu. Pour accéder à la carte, c'est un bouton tout en bas à droite avec écrit carte. C'est marrant, hein, ça ressemble vraiment à l'ergonomie d'un smartphone que tu peux tenir en fait en version paysage. Mais c'est pas tout en fait, puisque du coup, il s'est rendu compte que d'un écran à l'autre. Par moment, il y avait des bords noirs qui se mettaient sur son écran, alors qu'il est censé être sur PC. Donc, c'est assez étonnant. Passer de 16/9 au 4/3. Enfin bref, plein de petits trucs comme ça, et évidemment, l'interface de combat, avec les boutons cliquables, en fait, en rectangle, en bas à droite. Ce qui se passe, c'est que Chrono Trigger PC, en fait, c'est pas Chrono Trigger PC, c'est Chrono Trigger mobile. Peut-être, d'ailleurs, la version italienne, qui a été juste calqué sur pour te dire écoute ben voilà ça c'est Chrono Trigger PC achète-le voilà.
Non mais en plus même sans ça tu le vois parce qu'il y a un moment il y a des trucs qui sont marqués genre n'utilisez pas des emoticons quand tu dois taper le nom du personnage. Donc tu sais quand t'es sur PC tu trouves ça un peu bizarre quoi c'est je rappelle que c'est vendu 15 balles quand même. Dans le genre scandale du prix, et là, ça se pose là, quoi. En plus de ça, il y a les filtres habituels qui rendent le jeu tout flou, là, quand tu le mets en grand écran, etc. Enfin, voilà. Normalement, sur un portage à peu près propre, tu peux désactiver ce genre de filtre. Parce que tu veux les pixels en l'ancienne, etc. Là, tu peux pas. Hein. Et aussi, moi, la grosse arnaque, je trouve, quand même, c'est que tous les cinématiques, vous savez, qui avaient été ajoutées à l'époque sur la version PlayStation, elles sont en basse résolution. On sait pertinemment qu'ils ont en haute résolution, ces cinématiques-là. Pourquoi? Parce que il se trouve qu'ils ont utilisé les images en haute résolution dans leur trailer promotionnel. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on ait les cinématiques en basse résolution, si ce n'est le fait que c'est un portage direct de la version mobile et qu'ils sont pas fait chier. Voilà, enfin, c'est vraiment pour moi le foutage de gueule made in Square Enix avec un F majuscule, quoi. Bon, moi déjà à la base, si vous voulez, je suis pas forcément client de ce genre de choses, c'est-à-dire que moi je suis honnête, hein. Tu me sors un portage de Chrono Trigger sur PC. Si tu as pas une plus-value significative, moi je prends la version émulée. Hein. Je vais pas jouer les faux culs à dire ouais l'émulation c'est mal, rien à foutre, rien à foutre, mais rien à foutre. C'est-à-dire le jeu il a été acheté, je sais pas combien de fois, c'est bon, faut arrêter là. Hein, au bout d'un moment, déjà là-bas je suis pas forcément client. Mais alors là je veux dire, tu sais il y a même pas le truc de se dire ouais non mais quand même ils ont fait un effort sur le portage et tout machin. Que dalle putain, mais c'est du travail de sagouin de feignasse, enfin c'est vraiment tac export en un après-midi c'était réglé quoi. Voilà, en tout cas on ne vous remercie pas Square Enix,
donc n'achetez pas ce portage.
Enfin, tu dis ça une journée, mais je suis sûr que le mec, il a appuyé sur un bouton, il est parti faire son café, et le jeu était sur Steam, quoi. Enfin, c'est du foutage de gueule. Et déjà, rien que quand le jeu était sorti $15 sur mobile, je trouvais que c'était quand même assez cher pour un jeu comme ça.
Bah, surtout que, honnêtement, l'interface mobile, elle est dégueulasse. Enfin, elle s'intègre pas du tout au jeu.
Mais c'est clair, mais oui.
Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en termes d'esthétique, ils auraient quand même pu faire un effort pour intégrer l'interface au jeu, quoi. Même sur mobile.
Ouais, c'est ça. Et puis, et surtout que le jeu, enfin, les cinématiques qui avaient été ajoutées donc sur la version PS1 à l'époque, qui arrivent comme ça en basse résolution sur ton PC. Généralement, les joueurs PC jouent quand même assez proche de leur écran. Ils jouent plutôt sur bureau que sur leur télé de salon, quoi. Mais donc, du coup, tu vois encore plus les pixels qui te ressortent dans les yeux. Enfin, c'est dégueulasse.
Ah, bon, on va partir sur un autre sujet un peu scandaleux, mon cher Morvan. Et oui. Là, on va parler de Steam.
Oui, bizarrement. alors... On reparle de Steam aujourd'hui, alors c'est sans doute des jeux dont vous n'avez pas spécialement entendu parler, sauf un. On va parler de Death Trash, qui est un RPG situé dans un monde post-apocalyptique.
On en avait parlé, je crois, il y a très très longtemps, mais
ouais, donc on vous en
tiendra
par rapport.
C'est un RPG en mode post-apo bien crade, avec du pixel partout.
Ouais.
Et on va dire que, en tout cas, il a une identité visuelle tellement marquée que c'est difficile de pas remarquer quand quelqu'un copie, tu vois.
Oui. Voilà, et c'est précisément de ça dont on va parler. Alors, à savoir, précisons qui aura son importance tout à l'heure. Dans ce jeu, en fait, il y a une ville qui s'appelle Fucktopia. F-U-C-K-T-O-P-I-A. Et il se trouve, en fait, que le développeur de ce jeu, qui s'appelle Stefan Hövelbrinks, alors, il a pas sorti son jeu encore, hein, Death Trash, mais il s'est rendu compte, en fait, que sur Steam était disponible un jeu qui s'appelle Fucktopia. F-U-K-T-O-P-I-A. Déjà. Et ensuite, il est allé regarder la description de ce jeu. Et en fait, il se trouve que, alors pas mot pour mot, mais quasiment, la description du jeu Fucktopia est très 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 inspirée de celle de Death Trash, donc de son propre jeu. Et que, en termes de direction artistique, il y avait quand même des ponts, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc il a interpellé le studio de développement qui s'appelle exactement Free Minds et qui n'a pas réagi. À savoir ensuite qu'ils se sont rendu compte en fait que ce jeu en fait il a des grosses similitudes avec un autre jeu en termes de gameplay et ce jeu en fait n'est autre que Mother Russia Bleeds. Et du coup voilà le développeur de Death Trash est allé directement parler donc à l'éditeur Devolver Digital et au développeur de Mother Russia. Ces développeurs là ont répondu: oui, ce mec-là, en fait, nous a contactés, et bon, bah pour nous, c'est pas vraiment un souci, on considère que c'est un projet hommage.
Hommage.
Voilà, alors c'est tribute qui est utilisé, mais c'est voilà, ça veut dire la même chose. Bon, il se trouve, en fait, que Free Minds a effectivement contacté les développeurs de Mother Russia Bleeds, mais pas du tout les développeurs de Death Trash. Du coup, ça pose vraiment problème à ce développeur-là, qui, pour le coup, l'explique, il est bien démuni, il l'a expliqué à PC Gamer, il a dit, bah, il faut que je trouve un autre nom à ma ville, la ville de Fucktopia, et que je trouve un moyen, en fait, de faire en sorte que les gens comprennent que c'est pas moi qui copie. Si vous voulez, s'il sort, donc, je sais pas, moi, dans un mois, dans deux mois, etc., les gens qui vont voir arriver son jeu, ils vont se dire, mais attends, qui a copié qui ? Est-ce que c'est Fucktopia qui a été copié par Death Trash ou le contraire? Et quand tu regardes en fait la date de sortie d'un jeu, tu vas voir que Fucktopia est sorti avant Death Trash. À l'heure actuelle, en fait, il s'est trouvé démuni face à Steam parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen pour un mec comme lui qui se fait copier, d'autant plus qu'il n'est pas encore sur Steam, pour en fait alerter les gens. Et dire, bah écoutez, je suis en train de me faire enculer, là. Et lui, ce qu'il propose, en fait, c'est que si, dans les forums Steam d'un jeu, il y a un certain nombre de topics qui sont créés, puis effacés, que ça forme une espèce d'alerte, en fait, chez Steam. Pour au moins que ça soit pas mis sous le tapis. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui pourrait fonctionner, mais en tout cas, le pauvre, si tu te mets à sa place, c'est quand même compliqué comme situation. Surtout quand t'es un petit développeur qui n'a pas de section juridique pour ensuite bah, dire « Écoute mec, t'abuses là, fais quelque chose. » Parce que du coup, là, concrètement, il a pas les moyens de dire « Là, tu es en violation en fait de mes droits d'auteur ou je ne sais quoi, change le nom de ton jeu. » Parce que à l'heure actuelle, en fait, Free Minds a effectivement changé, sans jamais répondre aux développeurs d'ailleurs, la description, voilà, mais c'est tout.
Voilà, donc la magie de Steam. On passe à la suite, messieurs ? Pixel.
Ouais.
Tu vas nous parler de Donald.
Donald Duck.
Allô.
Allô. Non mais c'était le moment où tu devais rire, enfin je pense.
Ah bon? Non mais non, pas spécialement, non.
Pourquoi?
Ça donne pas spécialement envie de rire, en plus comme news, quoi, que non.
Ah non, bah, Donald Trump, Donald Duck, tout ça, quoi. Bon, on va la refaire, vas-y, redis-moi la phrase. Tu couperas au montage, allez, allez, c'est bon.
D'accord, ok.
C'est gênant.
je serais presque tenté, tu sais, de laisser le blanc. Bon, Pixel, tu vas nous parler de Donald.
Oui, comme Donald Duck, n'est-ce pas? Non. Arrêtons de rire deux secondes. C'est pas drôle. Ah là là, putain. Bon, je fais une troisième fois, je sais pas.
Ah non, maintenant tu te démerdes, hein, c'est bon. Je crois que pour une fois, je vais laisser ça en pure non-montée. Pour que les
vous
gens
voient
un peu...
Vous voyez ce qu'on subit, les gens.
Pour les gens réalisent un peu ce qui se passe en coulisses.
Ouais,
venez nous
et
aider.
Et toute
ça fait une heure qu'on enregistre, j'en peux plus.
Et toutes les conneries que tu dois effacer au montage, ça te fait suer. T'aurais envie de faire autre chose, tout ça, quoi, tu vois.
Voilà, c'est ça.
Et vous n'imaginez même pas toutes les autres conneries qu'il peut censurer, hein, au montage.
Ah ouais, la censure arbitraire.
Là, c'est Donald Duck, c'est juste soft, hein. Attention, on sort des trucs borderline, vous ne le saurez jamais, attention, c'est secret.
Le mec, il se fait passer pour le rebelle de la forêt, là, c'est bon, allez.
On va aller parler de Donald, là, un peu. Qu'est-ce qu'il a fait, Donald, encore?
Bah, Donald, il a encore raté une occasion de fermer sa gueule, comme d'habitude. Puisque, suite à la fusillade de Parkland, hein, aux États-Unis, qui a fait 17 morts et une quinzaine de blessés environ, bah, Donald, au lieu de mettre ça sur le compte des armes à feu aux États-Unis, il a mis ça sur le compte des jeux vidéo et du cinéma. Parce que c'est bien connu. Aux États-Unis, dès que quelqu'un tue une autre personne avec une arme à feu, c'est toujours de la faute du cinéma ou des jeux vidéo, bien entendu.
Et jamais de l'arme à feu, hein, jamais.
Et jamais du fait que des mineurs de moins de 20... Enfin, c'est 21 ans aux États-Unis, l'âge c'est adulte. Mais... Donc des mineurs de moins de 21 ans puissent avoir accès à des armes à feu, des véritables armes à feu qui tuent des vrais gens. C'est un peu l'hypocrisie politique américaine comme on les aime, comme d'habitude.
Business as usual, j'ai envie de dire.
Voilà. Mais aussi, en fait, il n'est pas le seul à avoir ouvert sa gueule, parce qu'il y en a un autre qui s'appelle Matt Bevin, qui est le gouverneur du Kentucky. Et lui, il a tenu à peu près des propos similaires, et j'ai envie de vous répéter en fait ce qu'il dit, parce qu'en fait, il nous dit ceci. Alors, nous avons un problème culturel en Amérique. Il suffit de regarder la culture de la mort qui est célébrée. Il y a des jeux vidéo qui, oui... sont listés comme destinés à un public mature, mais les enfants y jouent et tout le monde le sait. Et il n'y a rien pour interdire les enfants d'y jouer alors qu'ils célèbrent le massacre de personnes. Alors pourquoi ça me choque ce qu'il dit? Et pourquoi c'est hypocrite? Parce qu'aux États-Unis, comme certains doivent le savoir, dans certains états des États-Unis, surtout les états sudistes, il est communément admis dans la culture familiale locale, on va dire, que un père, un bon père de famille sudiste ait tout à fait le droit d'emmener ses enfants au range, comme on dit en anglais, enfin le champ de tir, et qu'il leur apprenne à tirer à l'arme à feu, avec une vraie arme à feu, avec des vraies balles, bon, s'ils tirent sur des cibles factices. Alors les enfants de moins de 21 ans, oui, d'accord, c'est pour un public mature, ils jouent à des jeux matures et qu'ils auraient pas le droit d'y jouer. Ça le fait chier, le gouverneur du Kentucky. Mais par contre, le fait que des enfants de moins de 10 ans aient accès aussi à des armes à feu, même légalement, par contre, là, c'est absolument normal. Voilà, ça me choque, par exemple, tu vois.
On est d'accord.
Ouais.
Bon, je crois que tu avais quelque chose à ajouter par rapport...
Ouais, en fait, un peu comme d'habitude, Trump a dit, en fait, je vais rencontrer des membres de l'industrie du jeu vidéo. Pour parler, on ne sait pas de quoi, mais pour parler. Juste pour remettre un petit peu les choses en contexte, parce que bon, forcément, on va là, tout le monde tombe bras raccourcis sur Trump. Mais à l'époque, en fait, de la tuerie de Sandy Hook, donc qui était survenue en début 2013, donc à l'époque de l'administration Obama, Joe Biden, qui était donc le vice-président à l'époque, avait lui aussi rencontré des membres de l'industrie du jeu vidéo. À l'époque, c'était Electronic Arts et Activision Blizzard, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient particulièrement concernés, puisque Call of Duty et Medal of Honor. Donc, juste pour, voilà, mettre un petit peu les choses en perspective, c'est aussi quelque chose qui se faisait d'un point de vue démocrate.
Bah, le fait est que c'est un bon moyen pour les politiques de se faire mousser, de façon, hein, de tout
voilà.
voir.
Voilà, alors,
c'est très
bien
contre, que voilà.
pour continuer à remettre les choses en perspective, là où c'était différent à l'époque pour Joe Biden et le Parti démocrate, c'est que quand il a dit « voilà, j'aimerais bien vous rencontrer », il avait aussi rencontré des membres de l'industrie du cinéma. Il voulait voir s'il n'y avait pas quelque chose qui était cassé dans la culture américaine en général. Donc il n'avait pas vu que des personnes de ces deux industries-là. Et, chose très très importante, puisque ça n'est pas le cas à l'heure actuelle dans l'administration Trump, à l'époque, en fait, Joe Biden avait créé une espèce de task force qui devait étudier toutes les possibilités et notamment des restrictions en termes d'accès aux armes, etc., etc. Bon, le fait est que à l'époque,
c'est
c'était
pas abouti à grand chose. Hein.
Non, mais ben, le souci, en fait, et c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, mais ça s'est passé en 2013 et dès 2010, il n'y a plus aucune majorité dans le Congrès américain pro-démocrate. Donc quoi qu'il arrive, c'était que du vent, en fait. Parce que il pouvait rien passer en termes de lois importantes et encore moins pour le contrôle des armes aux États-Unis. Donc voilà, ça c'était pour le petit rappel historique.
Non, mais le plus gros problème, tout le monde le sait, ça vient de le lobby qui vend ses armes à feu aux États-Unis, donc ici est le National Rifle Association. C'est un lobby déjà qui est extrêmement puissant, qui rapporte des milliards chaque année. De plus, Donald Trump qui est pour armer les professeurs d'école, enfin.
Les enseignants,
ça, ouais. Au lieu d'interdire les armes à feu, tout simplement, à part si t'es un chasseur ou bien d'avoir un permis port d'armes pour le cas de ton métier, par exemple, tel que les policiers, ce genre de choses-là, où t'en as vraiment besoin pour en cas d'attaque terroriste ou ce genre de choses, qu'est-ce qu'un citoyen déjà fait avec un arme à feu de base ?
Ah ouais, alors ça, bon, c'est le deuxième amendement, hein. Ça, tu ne peux pas y toucher aux États-Unis, c'est le sacro-saint. En fait, le vrai souci, c'est que avec des lobbies comme la NRA, qui rincent tous les politiques qui peuvent, en fait...
Bah oui,
il y a eu une pleine page dans le New York Times qui a été publiée avec écrit en tout petit la liste de tous les politiques en fait qui avaient reçu de l'argent de la part de la NRA. Et c'était vraiment tout petit, c'est juste pour vous montrer en fait à quel point il y a beaucoup beaucoup de monde en fait qui reçoit de l'argent de la NRA. Et il y avait aussi les montants et c'était impressionnant en fait tout ce qu'ils donnent pour dire bah ouais écoute moi je te donne ça pour que tu te fasses réélire. Par contre quand tu seras élu, pas un seul mot sur le contrôle des armes.
Non, mais enfin, tu vois bien dans quel monde on est. Bon, après, c'est vrai que le jeu vidéo a quand même sa part de responsabilité. Je pense notamment à Electronic Arts qui avait fait une campagne scandaleuse avec Medal of Honor Warfighter, qui avait vendu en fait en précommande des répliques d'armes réelles en édition, si tu veux, limitée. Ça, je trouve quand même que c'est un petit peu dérangeant. Et en plus de ça, je crois que c'était en collaboration avec justement le NRA, tu vois. Donc là...
Ouais, par contre, parce que ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas là pour dire non plus, tu vois, que le jeu vidéo, c'est fabuleux, il n'y a rien à dire dessus, ah, oui, tout va bien. Effectivement, moi, je pense que dans la culture générale, enfin, il y a un problème, de toute façon, avec le rapport qu'on a avec la violence. Mmh. C'est-à-dire que la violence est quelque chose de standard dans notre média. On ne pense que par ce biais-là. Et je trouve un peu curieux qu'on soit un média où on n'ait pas d'offre ludique alternative, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que des jeux qui proposent autre chose que d'aller foutre une bastos dans quelqu'un, c'est quand même plutôt rare par rapport au cinéma,
ouais,
par exemple.
Il faut pas oublier aussi que c'est quelque chose qui est récompensé dans notre médium, en fait.
Voilà.
C'est-à-dire que à chaque fois que tu tues quelqu'un, finalement, tu obtiens une récompense. Donc c'est vrai que
maintenant,
c'est compliqué.
Maintenant, entre dire que ce n'est pas normal que un média soit autant tourné vers la violence et dire ce média-là est responsable de tuerie. Bon, de toute façon, vous avez compris, hein, la manœuvre est grossière.
Bien sûr.
Pourquoi elle est grossière ? Parce que les mecs sont dans la merde en ce moment, que pour la première fois depuis longtemps, il y a un vrai mouvement aux États-Unis contre les armes qui s'exprime de manière assez véhémente et qui a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire. Et voilà, c'est une manière de détourner l'attention. Bon, c'est un peu grossier. Mais je tiens à dire que ça n'empêche pas qu'on peut avoir un débat sur la violence dans les jeux vidéo, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, faudrait arrêter de pointer du doigt un truc comme si c'était le responsable, alors qu'on sait très bien que Voilà, je veux dire, nous, on a aussi GTA, machin, on n'a pas des tueries dans les écoles régulièrement.
Ah oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est que moi, je suis pour qu'il y ait un débat sur le fait que le jeu vidéo soit régulé, notamment pour les mineurs, quoi. Par exemple, je trouve pas ça normal qu'un môme de 12 ans ait accès à des jeux tels que GTA, Call of Duty. C'est pas des jeux qui sont faits pour eux. Normalement, c'est à la responsabilité des parents, mais vu que les parents ne font pas leur travail, enfin, je suis pas contre de mettre une interdiction de présenter une pièce d'identité lors de l'achat du jeu en magasin, ouais, et que le jeu soit délivré uniquement sur le PEGI. Et dans ce cas-là, le PEGI aura vraiment un vrai rôle à jouer, et surtout dans la classification des jeux. Et là, peut-être que les éditeurs y réfléchiront à deux fois, au lieu de mettre, par exemple, des scènes de meurtre comme ça, de masse, qui n'ont vraiment aucun truc à raconter, si ce n'est de faire plaisir à, si tu veux, à ton ego derrière ton écran. Oh là là, j'ai massacré tout le monde, c'était marrant. Voilà, enfin, moi je pense que, oui, le jeu vidéo doit être régulé, mais d'une certaine façon, qu'il soit logique. C'est pas parce que le jeu vidéo, il y a des scènes violentes dans les jeux vidéo, que c'est forcément ça la cause qui fait qu'il y a des tueries aux États-Unis, quoi. Quand tu vends une arme à feu à quelqu'un, moi je pense qu'il devrait y avoir quand même un suivi psychologique de la personne qui doit être fait, parce que peut-être que la personne, au moment où tu as vendu l'arme à feu, était consciente de tout ce qui se passait et tout ça, était une personne sereine. Mais qui te dit qu'il n'y a pas eu un événement dans sa vie plus tard qui va se passer d'ici 2, 3, 4 ans, qui va complètement retourner le cerveau de la personne, et que cette personne-là va avoir justement des troubles du comportement. Enfin, avoir une arme à feu, c'est quand même une responsabilité qui est assez dure, mais t'as l'impression que les États-Unis, ils s'en foutent royalement, ils te vendent une arme à feu comme s'ils te vendaient un paquet de cacahuètes ou autre chose. Mmh. Voilà, c'est des choses que, enfin, une arme à feu ne doit pas être vendue comme ça à la légère, quoi. Enfin, putain, une arme à feu, c'est quelque chose qui sème la mort.
Morren, et après on enchaînera.
Ouais, mais justement, pour terminer avec un chiffre qui a été révélé par les décodeurs du monde, en fait, sur les 45 premiers jours de l'année, donc du 1er janvier au 14 février, 2018, il s'est pas passé plus de deux jours sans qu'il y ait une victime de fusillade de masse aux États-Unis. Donc sur ces 45 premiers jours, ça fait 82 morts et 139 blessés. Voilà. Donc voilà. Après, qu'on me dise effectivement qu'il n'y a pas de problème avec les armes aux États-Unis et que je leur rirais bien au nez.
Ok. On va terminer, Morren, sur Prestalis, suivi du dossier.
Ouais, suivi du dossier, alors on va encore en parler par le prisme de Canard PC, et je vous en parlais un petit peu la semaine dernière, et je vous parlais en fait du fait que Canard PC allait devoir avoir recours à une campagne de financement participatif pour du coup financer le trou dans les caisses qui va être fait pendant 4 ans à cause de Prestalis qui ponctionne, on le rappelle, 2,25% des recettes chaque mois de la presse papier, donc pas seulement de Canard PC. Ils ont précisé un petit peu, donc, dans un édito d'Yvan Godet, ce que ça allait représenter. Et en fait, sur 4 ans, ça représente 100 000 euros pour Canard PC, dont 40 000 euros seront ponctionnés dès la première année. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas 40 000 euros qui seront flous dans les caisses, juste Canard PC crève, quoi. Donc, ils ont pas encore tout à fait lancé leur campagne Ulule, parce qu'ils attendent, en fait, il y a une audience de Prestalis au tribunal de commerce qui va valider ou pas le plan de redressement de Prestalis début mars, et selon l'issue, en fait, de cette audience, Canard PC se réserve le droit de lancer sa campagne Ulule. Donc c'est pas encore tout à fait relancé. En revanche, ce qui est certain, et ça, ça a été annoncé, c'est quelque chose qui va probablement frapper les lecteurs assidus de Canard PC, c'est que Canard PC, en fait, pour faire face à cette situation qui est assez catastrophique, ils ont plus assez d'argent pour continuer à être bimensuel. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Canard PC, ça faisait 11 ans qu'ils sortaient 2 numéros par mois, sans compter les hors-séries. Et en fait, sortir autant par mois, ça les met en danger financièrement, parce que plus ils sortent de numéros, plus Prestalis les ponctionne. Donc ils ont choisi, et ça sent un petit peu quand même la mort dans l'âme, hein, dans cet édito, que il valait mieux que le canard, en fait, devienne mensuel, donc il n'y ait plus qu'un seul numéro par mois. Il y aura plus de pages, et du coup le format sera un petit peu plus épais, donc avec une tranche rectangulaire et pas format fascicule comme on a pu le voir depuis 11 ans, pour en fait que Prestalis ait moins de prise sur eux. Donc voilà, moi à titre personnel, c'est une décision que je soutiens, et de toute façon je vais soutenir Canard PC dès qu'ils lanceront leur campagne de financement participatif. Ils le disent d'ailleurs dans l'édito, ils s'en remettent à leurs lecteurs, à leurs abonnés, pour sauver Canard PC. Ça sera d'ailleurs le titre de leur campagne de financement participatif, parce que c'est véritablement ça l'enjeu de cette campagne de financement. Donc voilà, on vous en parlait la semaine dernière, c'est une situation qui est extrêmement grave, et ben au grand mot, les grands remèdes.
Juste une chose, moi, à ajouter. Ils ont bien expliqué que, pour le moment, ils révélaient pas tout ce qu'ils avaient dans leur manche, entre guillemets, pour sauver le magazine, quoi. Et j'ai quand même un point d'interrogation pour le moment. C'est qu'est-ce qu'ils ont prévu au cas où il y aurait encore un problème avec Prestalis.
Ouais.
Parce que s'il s'agit juste de leur filer 100 000 balles pour couvrir le problème qu'il y a là actuellement, ouais, très bien, mais qu'est-ce qui se passe si dans 6 mois, je sais pas, par exemple, Prestalis fait un autre truc? Parce qu'on n'est plus à ça près maintenant. Hein. Donc, est-ce que ils ont un plan sur le long terme pour ne plus autant être dépendant de Prestalis? Qu'est-ce qu'ils ont prévu, quoi? Moi, c'est la question que je me pose, parce que là, honnêtement, il faut trouver d'autres solutions, quoi. C'est pas possible de continuer comme ça, je pense. Hein. Enfin, être autant dépendant de Prestalis, ça pose un problème. Ah,
malheureusement, ils n'ont pas le choix, quoi.
Bah, si, il y a des solutions, après, mais...
Non, oui, mais, enfin, la solution, enfin, pour l'instant, c'est que je vois, c'est de plus être présent en kiosque dans les magasins. Mais le problème, c'est comme on l'a dit, s'ils ne sont plus présents en boutique ou bien chez ton marchand de journaux, bah tu vas plus toucher un public de lecteurs au fur et à mesure du temps. Tu vas rester sur ta base de données, et ta base de données, enfin, elle va se réduire au fur et à mesure du temps.
Non, pas forcément. Je veux dire, est-ce que tu es obligé de passer par un système de messagerie, ce qu'est Prestalis, pour vendre des magazines? Est-ce que ce serait pas mieux de promouvoir ton site internet et de mettre en avant le magazine papier sur ces sites internet pour que les gens commandent directement du producteur au consommateur, et où tu squeezes complètement ce Prestalis, quoi, en fait?
Ouais, mais du coup, c'est pas tout le monde qui est encore passé sur ce format-là, qui reçoit son magazine directement chez lui. Donc là, si c'est tout le monde qui passe vraiment à sur ce format-là, et que donc du coup, Canard PC est disponible uniquement sur commande, quoi, c'est quand même une autre routine et une nouvelle logistique que tu vas quand même devoir prendre en compte pour la distribution de tes magazines, quoi.
Il y a quand même une partie non négligeable de l'électorat qui est abonné, hein. Donc la logistique, elle est déjà là. Pour moi, c'est pas un problème de logistique. Et tu peux commander d'ailleurs les magazines sur le site, là, actuellement. Pour moi, c'est un problème de communication, en fait. Il y a un moment donné, il va falloir faire comprendre aux gens, je pense, que Canard PC, vaut mieux l'acheter au numéro sur le site, ou il vaut mieux s'abonner sur le site, quoi. Je sais bien que ça pose un problème vis-à-vis des kiosques, parce que c'est vrai qu'il y a toute une profession qui dépend de ça, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse sauver les kiosques, si tu veux, et j'ai l'impression qu'en se cassant la gueule, les kiosques vont entraîner tout le monde avec eux, quoi. À un moment donné, moi, je vois qu'il y a une situation qui est qu'on a un prestataire unique qui est dans une situation financière pas possible, et que si ça se trouve, dans 6 mois, on rebelote. Et dans 6 mois, s'il rebelote, on fait quoi? On redemande 100 000 euros aux abonnés? Est-ce que vous croyez sérieusement que les gens vont redonner 100 000 balles? Surtout que là, je suis pas persuadé que la campagne va marcher, hein, moi j'en sais rien. À un moment donné, il faut essayer de trouver des solutions de long terme. Donc apparemment, de ce qu'ils disent, ils ont des idées, j'attends de voir. Voilà.
Il y a aussi un vrai souci avec ce passage au format mensuel, parce que les gens qui sont abonnés à l'heure actuelle, je sais pas, mettons sur 39 numéros, ben ça veut dire que sur cette période-là, sur la période de leur abonnement à l'heure actuelle, en fait, ben ils en recevront deux fois moins, puisque le magazine passe au format mensuel. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben Canard PC, en fait, va prolonger d'une année, a priori, leur abonnement. Et ça, c'est problématique pour Canard PC, parce que c'est un manque à gagner. Parce que c'est quelqu'un qui se réabonne pas, dans les faits. Enfin, c'est quelqu'un qui a payé pour une année, mais que tu livres, en fait, sur deux ans. Et ça, c'est très problématique. Et j'en parlais la semaine dernière aussi. Il y a aussi le fait des gens qui vont peut-être pas forcément faire la transition depuis le Kickstarter de la dernière fois vers le véritable réabonnement. C'est tricky, hein, comme situation.
Bon, quoi qu'il en soit, on vous tiendra informé sur les développements de l'affaire, parce que de toute façon, les magazines sont en train de s'organiser. Enfin, là, je vois toutes les réactions. Il y en a qui demandent aux gens d'essayer de convaincre leurs proches de s'abonner et tout. Mais je pense que si les indépendants veulent survivre, il va falloir peut-être qu'ils se regroupent pour essayer de trouver des solutions, ou je sais pas, parce que là, c'est très 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 compliqué ce qui se passe. Bon, allez, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
Salut tout le monde.
Salut.